Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans 4000 semaines, Oliver Berkmeman propose un essai de développement personnel à rebours des manuels classiques de gestion du temps. Son point de départ est arithmétique et existentiel. Une personne qui atteint environ 80 ans ne dispose que d'un peu plus de 4000 semaines. Cette limite ne sert pas à intensifier l'urgence de vivre, mais à contester l'idée qu'une organisation parfaite permettrait de tout accomplir. Journaliste britannique et ancien adepte des méthodes de productivité, Berkmeman examine les promesses de contrôle véhiculées par les listes, les agendas et l'optimisation permanente. Il mêle réflexions philosophiques, critiques culturelles et pistes concrètes pour modifier son rapport aux priorités. Le livre ne promet donc pas une technique pour vider sa boîte de réception ou multiplier ses performances. Il invite plutôt à reconnaître les renoncements inévitables, à choisir consciemment ses engagements et à cesser de traiter le temps comme une ressource entièrement maîtrisable. Je vous présentais les points clés de ce livre. Premièrement, la finitude des 4000 semaines comme point de départ réaliste. Le chiffre qui donne son titre au livre condense une idée simple, le temps d'une existence est profondément limité. Berkmeman en sert moins comme d'un compte à rebours angoissant que comme d'une correction à nos attentes irréalistes. Nous agissons volontiers comme si tout projet important pouvait être réalisé plus tard, une fois les tâches urgentes réglées. Or, les obligations se renouvellent continuellement et ce moment de disponibilité totale n'arrive pas. Admettre la finitude oblige donc à voir que choisir une activité, une relation ou une ambition signifie nécessairement en écarter d'autres. Cette exclusion n'est pas un défaut de planification, mais une caractéristique de toute vie humaine. Le livre déplace ainsi la question centrale de comment tout faire vers celle de ce qui mérite réellement une place dans un temps limité. Cette perspective contredit la culture de l'optimisation, qui transforme chaque moment en occasion de rendement. Chez Berkmeman, une existence valable ne se mesure pas au nombre d'expériences accumulées ni à la quantité de tâches achevées. Elle dépend de la capacité à assumer ses priorités sans se raconter que tous les autres chemins restent simultanément ouverts. Deuxièmement, le piège de l'efficacité qui produit toujours plus de travail, Berkmeman critique le mécanisme par lequel les gains d'efficacité augmentent souvent au lieu de réduire la sensation de surcharge. Répondre plus vite aux messages peut susciter davantage de messages. Libérer du temps dans un agenda peut conduire à le remplir aussitôt de nouvelles obligations. Devenir plus fiable et plus disponible peut aussi accroître les demandes formulées par autrui ou par soi-même. Le problème n'est donc pas que les outils d'organisation soient inutiles dans tous les contextes, mais qu'ils deviennent trompeurs lorsqu'ils promettent un sentiment durable de maîtrise. Ils peuvent aider à traiter certaines tâches sans résoudre l'infinité potentielle de ce qui réclame notre attention. Cette logique explique pourquoi une liste de choses à faire semble rarement achevée. Elle constitue moins un inventaire fermé qu'une porte d'entrée pour de nouvelles exigences. L'auteur met en cause l'espoir qu'un système parfait permettra un jour de rattraper son retard. Cet espoir reporte les décisions difficiles, notamment celle de laisser volontairement certaines choses inachevées. La réponse proposée n'est pas l'inefficacité volontaire, mais une efficacité subordonnée à des limites choisies. Il faut décider ce qui ne sera pas fait, protéger certains engagements et refuser que toute capacité disponible soit automatiquement convertie en production supplémentaire. Troisièmement, renoncer au contrôle total sur le temps et sur l'avenir. Elle, une des dimensions philosophiques du livre, concerne notre désir de contrôle. Planifier est utile, mais l'auteur observe que nous lui demandons souvent davantage, nous souhaitons neutraliser l'incertitude, éviter l'inconfort des choix et garantir que nos efforts produiront les résultats attendus. Pourtant, les événements, les autres personnes et même notre propre attention échappent en partie à cette emprise. La volonté de tout prévoir peut alors devenir une manière de différer l'action ou de se protéger contre la vulnérabilité. Berkmeman invite à distinguer l'organisation raisonnable de la tentative de dominer l'expérience entière. Accepter que le temps ne se laisse pas posséder ne conduit pas à la passivité. Cela conduit à agir sans exiger une certitude préalable impossible. Cette position modifie également la manière d'évaluer une journée. Une journée réussie n'est pas forcément celle où chaque minute a été exploitée et chaque imprévu éliminé. Elle peut être celle où une personne a été présente à ce qu'elle avait décidé de faire, malgré les limites, les interruptions et les résultats incomplets. Le livre rejoint ainsi des traditions de pensée qui accordent de la valeur à l'acceptation, tout en évitant de présenter cette acceptation comme une formule d'érénité immédiate. Quatrièmement, les activités sans ligne d'arrivée et la valeur de la présence. Berkmeman oppose implicitement les activités orientées vers un résultat final à celles qui n'ont pas de point d'achèvement définitif. Une grande partie de la vie ne se résout pas par une case cochée, entretenir une amitié, élever un enfant, pratiquer un art, lire. Marcher ou prendre soin de sa santé exige une attention répétée sans produire de clôture totale. Le risque moderne consiste à dévaloriser ses activités parce qu'elles ne donnent pas l'impression d'avancer vers une fin mesurable. On préfère alors les reporter au profit d'urgences facilement quantifiables. Le livre encourage au contraire à leur reconnaître une valeur propre. Leur intérêt ne réside pas seulement dans un bénéfice ultérieur, mais dans l'expérience même de les accomplir. Cette idée aide à comprendre pourquoi chercher à optimiser tout loisir peut le vider de son sens. Si une promenade devient uniquement un moyen d'améliorer sa performance, ou si une conversation devient une tâche relationnelle à accomplir, l'attention se porte sur le résultat plutôt que sur la relation au moment présent. Berkeman ne condamne pas les objectifs, nécessaires dans de nombreux domaines. Il rappelle toutefois qu'une vie exclusivement organisée autour d'objectifs terminables risque de négliger ce qui ne se termine jamais précisément parce que cela compte durablement. En dernier lieu, choisir des problèmes féconds plutôt que rechercher une vie sans friction. Le livre conteste l'idéal d'une existence enfin débarrassée de toutes les difficultés. Berkeman souligne que les problèmes ne disparaissent pas lorsque l'on résout une série de tâches de nouveaux arbitrages, conflits, inquiétudes et responsabilités apparaissent. Chercher sans cesse la méthode qui supprimera toute friction peut donc enfermer dans une attente perpétuelle. L'alternative est de développer une tolérance plus lucide aux problèmes inhérents aux engagements importants. Une relation demande du temps et expose à la déception. Un travail créatif implique doute, lenteur et possibilité d'échec. Un choix de carrière ou de lieu de vie ferme d'autres options. Ces difficultés ne prouvent pas nécessairement que la décision était mauvaise. Elles peuvent être le coût normal d'une orientation qui a de la valeur. Cette approche apporte un critère plus substantiel pour hiérarchiser ses priorités. Il ne s'agit pas seulement de choisir ce qui est agréable ou efficace à court terme, mais les difficultés que l'on juge dignes de porter. Elle évite aussi de faire de la tranquillité absolue un objectif irréaliste. L'auteur propose ainsi une maturité pratique, reconnaître les contraintes, accepter l'inconfort qui accompagne les choix réels et cesser de confondre une vie significative avec une vie parfaitement fluide. En conclusion, 4000 semaines s'adresse d'abord aux personnes qui se sentent durablement débordées, coupables de ne pas exploiter leur temps de manière optimale ou épuisées par la multiplication des méthodes d'organisation. Il peut aussi intéresser les lecteurs attirés par une réflexion accessible sur la mortalité, l'attention, le choix et les limites du contrôle. Son bénéfice principal est moins de fournir un protocole de planification que de corriger une prémisse. Aucune stratégie ne permettra de contenir toutes les possibilités, demandes et ambitions d'une vie. Cette correction peut rendre les arbitrages plus explicites et aider à protéger des engagements réellement importants. Le lecteur en quête de procédures détaillées, de tableaux d'efficacité ou de techniques pour accomplir davantage trouvera cependant un livre volontairement moins opérationnel que les manuels traditionnels. C'est précisément ce qui le distingue dans sa catégorie. Là où beaucoup d'ouvrages promettent de mieux exploiter chaque heure, Berkeman examine pourquoi cette promesse entretient parfois l'anxiété qu'elle prétend résoudre. Il ne glorifie ni la désorganisation ni le renoncement à toute ambition. Il replace les outils au second plan, derrière une question plus exigeante: quelles limitations accepter pour mener une existence choisie? Grâce à ce mélange de critiques de la productivité, de philosophie pratique et de ton non prescriptif, le livre offre une alternative crédible au culte de la performance et invite à considérer le temps comme le cadre fini dans lequel des choix prennent leur poids. Si vous souhaitez soutenir Oliver Berkeman, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!